Nous sommes le jeudi 22 septembre 2016 et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un chiffre à la une ce matin, près de 8 milliards d'euros. C'est le plus gros contrat jamais signé à l'export dans l'aviation militaire. L'Inde achète 36 chasseurs Rafale à Dassault Aviation.
Un homme est entre la vie et la mort à Charlotte, aux États-Unis, blessé par balle lors d'une deuxième nuit de violence dans la ville du sud-est du pays. Violence suite à la mort d'un noir mardi, abattu par un policier.
Dans l'actualité également, de nouvelles vagues d'attaques au couteau par des Palestiniens contre des policiers israéliens. Et puis cette campagne choc, voire choquante, en Italie. Ce jeudi a été décrétée journée de la fertilité pour inciter les femmes à faire des enfants sans tarder. 7h13, le billet économique.
Marie Viennot évoquera les révélations relatives à un paradis fiscal, les Bahamas. La question du jour à l'université, comment lutter contre le surpeuplement des amphis. Et enfin, le sujet du jour, l'écriture et la vie ordinaire, en compagnie de la romancière Yasmina Reza à 7h40.
Après le Qatar et l'Égypte l'an dernier, c'est au tour de l'Inde de s'équiper du Rafale, 36 appareils pour un achat estimé à près de 8 milliards d'euros. On ignore encore les modalités financières de cet accord. Une partie de la fabrication sera-t-elle confiée par exemple à des entreprises indiennes? Y a-t-il des transferts de technologie à New Delhi? C'est sur ce point que de précédentes négociations avaient achoppé. L'Inde négociait alors avec Dassault pour 126 avions de combat en 2012. Aujourd'hui, la vente de 36 Rafales est synonyme de production à plein régime jusqu'en 2024 au moins pour Dassault, Thales, Safran et un demi millier de sous-traitants en France. Le contrat devrait être officiellement signé demain à New Delhi en présence de Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense. Enjeu décrypté par Christian Chesneau.
Ça sent la fin heureuse du feuilleton, se réjouit un cadre de Dassault Aviation. Le top départ de la vente du Rafale en Inde avait été donné en 2007 avec un premier appel d'offres et fin janvier 2012, le chasseur français a été retenu par les autorités indiennes qui voulaient en acheter 126 exemplaires au départ. Mais le coût prohibitif de l'installation des chaînes de production sur place et un changement de gouvernement à New Delhi ont fait fondre le nombre d'avions commandés à 36 unités. Un contrat revu à la baisse, justifié par l'armée indienne pour urgence opérationnelle afin d'obtenir des avions le plus vite possible. Il faut dire que sa flotte aérienne est vieillissante, les MiG-21 russes se crachent régulièrement. Bref, l'Inde avait impérativement besoin d'appareils modernes et souhaitait diversifier ses sources d'approvisionnement. Ces dernières années, son environnement géopolitique régional s'est dégradé. Les 36 Rafales seront utilisés pour protéger son espace aérien contre les violations répétées par des avions pakistanais ou chinois, une façon de montrer ses muscles à ses deux voisins.
Christian Chesneau pour France Culture. Une deuxième nuit de violence à Charlotte aux États-Unis. Le gouverneur de Caroline du Nord décrète l'état d'urgence. Des manifestations ont une nouvelle fois dégénéré hier soir. Des centaines de personnes protestaient contre la mort d'un noir abattu mardi par un policier. Policier qui dit avoir tiré parce que cet homme refusait de lâcher son arme de poing. Ses proches affirment au contraire qu'il n'avait qu'un livre en main et ils dénoncent une bavure. Pour la deuxième nuit d'affilée, donc, face à face tendue avec les forces de l'ordre, vitres brisées dans la ville de Charlotte, projectiles lancés sur les policiers qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Un homme a été blessé par balle, il est dans un état critique. La police précise que ces blessures ont été causées par des affrontements entre civils et non par les forces de l'ordre. Récit d'une nuit de violence avec Frédéric Carbone, correspondant de France Culture aux États-Unis.
Dès le début de la soirée, le chaos règne dans le centre-ville de Charlotte. Par petits groupes, des manifestants cagoulés harcèlent les forces de l'ordre. Les policiers anti-émeutes répondent à coups de grenades lacrymogènes. C'est à ce moment-là que des coups de feu éclatent devant un des grands hôtels de la métropole de Caroline du Nord. Un homme s'effondre, il est transporté à l'hôpital dans un état critique. Aucun coup de feu n'a été tiré par les policiers, affirment immédiatement les autorités. Il faut faire taire une rumeur qui se répand rapidement. Pendant toute la soirée, les incidents se concentrent autour des bâtiments symboles de la richesse au cœur de la ville et quelques boutiques sont pillées. Face à ce désordre, le gouverneur de Caroline du Nord décrète l'état d'urgence. Nous ne pouvons pas tolérer la violence. Nous ne pouvons pas tolérer les destructions de propriétés privées, explique Pat McCrory, qui annonce aussi le déploiement de la garde nationale. La priorité, c'est donc clairement le retour au calme, mais il faudra aussi répondre aux milliers d'habitants qui ne croient pas à la version d'un homme tué par les policiers en légitime défense parce qu'il était armé. C'est cela, ce manque de confiance, ce sentiment que certaines vies ne comptent pas, qui est à l'origine des deux nuits de violence.
Et la question raciale pourrait s'inviter dans le premier débat présidentiel entre Donald Trump et Hillary Clinton. Ce sera lundi prochain. Toujours aux États-Unis, mais à New York cette fois, une nouvelle réunion internationale doit se tenir aujourd'hui entre une vingtaine de pays et d'organisations internationales pour tenter de sauver le processus diplomatique sur la guerre en Syrie. Hier, Washington et Moscou se sont étrillés devant le Conseil de sécurité de l'ONU, alors que sur le terrain, la guerre fait rage. Au moins 11 civils tués hier à Alep dans des bombardements. Elle a passé 10 ans à la Commission européenne chargée de la concurrence et donc du respect des règles européennes. Nelly Kroes est aujourd'hui accusée d'avoir dirigé une société offshore établie aux Bahamas. Or, les commissaires européens doivent au début de leur mandat renoncer à toutes leurs fonctions de direction et notifier dans un registre public toutes celles rémunérées ou non qu'elles ont exercées les 10 années précédentes. Nelly Kroes ne l'a pas fait. C'est Bahamalicks, c'est une révélation du Monde et du consortium de journalistes qui avait déjà éplucher les Panama Papers. Marie Viennot y revient dans son billet éco à 7h13. En Israël, un tribunal doit rendre son verdict aujourd'hui dans le procès de cet adolescent palestinien, Ahmed Manasra, inculpé de tentative de meurtre de 2 Israéliens. C'était lors d'une attaque au couteau en octobre dernier à Jérusalem. Les autorités s'inquiètent aujourd'hui d'une résurgence de l'intifada des couteaux, car ces derniers jours ont été marqués par de nouvelles attaques. Correspondance à Jérusalem d'Étienne Monin.
Cette résurgence de la violence avait été envisagée par les forces de sécurité, mais elles craignaient une éruption un peu plus tard, au moment des fêtes juives traditionnellement tendues, programmées début octobre. C'est à ce moment-là, l'an passé, que les premières tensions sont apparues. Elles ont été suivies par des attaques menées principalement avec des couteaux ou des voitures béliers. Le phénomène a duré plusieurs mois, puis il a baissé d'intensité. Les attaques sont devenues beaucoup plus sporadiques au printemps, mais mieux organisées avec l'utilisation d'armes artisanales. Pour autant, le contexte qui explique ces actes désespérés menés par de jeunes Palestiniens en dehors des organisations armées, ce contexte est resté le même. Il n'y a toujours pas de perspective de paix, pas de profonds assouplissements dans le contrôle des territoires occupés et pas d'horizon politique clair côté palestinien. Presque un an après le déclenchement de cette vague de violence, le phénomène menace de redevenir quotidien. 3500 policiers ont été déployés autour et dans Jérusalem. Les effectifs supplémentaires qui devaient arriver pour les fêtes juives ont été rappelés plus tôt.
En République démocratique du Congo, le gouvernement promet de punir ce qu'il tient pour responsable des émeutes qui ont fait plusieurs dizaines de morts lundi et mardi. Hier, des opposants au président Joseph Kabila ont continué à manifester en petits groupes dans la capitale Kinshasa, mais le calme était revenu dans la plupart des quartiers. La présence militaire renforcée a peut-être dissuadé de nombreux manifestants.
7h07 sur France Culture, la suite du journal. Catherine Dutu, 7 candidats vont s'affronter dans la primaire de la droite.
La campagne pour l'Élysée est désormais lancée donc à droite avec l'officialisation hier de 7 candidatures. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-François Copé, Jean-Frédéric Poisson ainsi que François Fillon. L'ancien Premier ministre tenait un premier meeting hier à Paris en présence notamment d'anciens de la Manif pour tous. On y revient dans le journal de 7h30. La famille de Jacques Chirac réagit vigoureusement aux rumeurs faisant état du décès de l'ancien président. Une famille qui appelle au respect de sa tranquillité ainsi que de celle de son épouse Bernadette, également hospitalisée pour souffler face aux épreuves auxquelles elle fait face. Les salariés de Renault vont-ils à nouveau devoir se serrer la ceinture? C'est la question alors que le constructeur entame ce matin les discussions avec ses syndicats. L'objectif, un nouvel accord pluriannuel dans la continuité de l'accord de compétitivité qui avait été signé de 2013 à 2016. Un accord qui avait conduit à geler les salaires, travailler plus et supprimer plus de 7000 postes. Accord au bilan pourtant contrasté si l'on en croit les syndicats, Marion Lourd.
La marque aux losanges brandit pourtant l'accord et son beau bilan. 2000 recrutements et un bond des primes d'intéressement. Imposture, assure Fabien Gache, délégué CGT. Il y a plus à faire pour moins de salariés. Cadence infernale, nuisible à tous.
C'est suicidaire et ça explose plutôt les coûts. Et beaucoup de directeurs vous expliquent, quand vous avez autant d'intérimaires, ce n'est absolument plus gérable parce que ça dégrade bien sûr la capacité de répondre à l'instant T à la demande. On multiplie les retouches, on est hors délai. C'est le client qui a payé la facture. Si on prend que la Clio 4, le prix de vente catalogue a augmenté de 22% sur la période de l'accord compétitivité.
80% d'intérimaires dans les usines, compte le syndicat. En net, 7200 emplois ont bien disparu. Plus assez de bras, c'est aussi le message du premier syndicat, la CFE-CGC, signataire, elle, en 2013. Bruno Azière salue les usines conservées, les marges retrouvées, oui mais...
La baisse des effectifs que l'on a certes engagés au volontariat ont quand même engendré de la surcharge pour ceux qui restaient. Ça pose des difficultés. Nous, on a accompagné dans les temps difficiles l'entreprise. Maintenant, les temps sont meilleurs, donc il faut une courbe inversée au niveau de la création d'emplois.
Les syndicats rêvent donc d'embauche, de formation et d'augmentation, ambitieux. Mais Renault lui-même le reconnaît, l'entreprise est plus forte aujourd'hui. Elle devrait parler robotisation et tout de même efficacité. Pour ça, toucher au temps de travail n'est pas tout à fait écarté.
Les négociations débutent donc aujourd'hui, puis réunion tous les 15 jours au moins. Les négociations doivent se terminer le 13 décembre prochain. En Italie, ce jeudi 22 septembre a été décrétée journée de la fertilité ou Fertility Day. Le gouvernement a lancé une campagne choc pour inciter les femmes à faire des enfants sans tarder. Mais cette initiative a été jugée sexiste. Elle a soulevé une immense polémique. Le sujet est prioritaire dans la péninsule qui se dépeuple et qui affiche un taux de fécondité au plus bas à 1,35 enfants par femme, Mathilde Imberti.
Face au tollé, la ministre de la Santé italienne a dû retirer sa campagne publicitaire contre l'infertilité. Les affiches et les slogans du type « Bouge-toi, n'attends pas que la cigogne passe » ont choqué. « Si nous faisons des enfants tard », explique Martine à 36 ans, enceinte de son premier, ce n'est pas par choix.
Cette campagne est totalement décalée par rapport à la situation en Italie. Les jeunes trouvent du travail très tard. Les femmes, quand elles arrivent à trouver un contrat, risquent de le perdre si elles sont enceintes. Il y a très peu de place en crèche et on doit toujours compter sur les grands-parents.
Taux de fécondité en Italie, 1,35 enfants par femme, contre plus de 2 en France. La différence tient au choix politique, selon l'économiste Elisabeth à Addis, spécialiste du welfare.
Les politiques publiques ne sont pas pensées pour les familles avec enfants. Les horaires de travail, par exemple, le temps partiel est peu développé. Il n'y a pas d'aide financière structurelle, les jeunes ont des contrats précaires. Alors oui, ils sont conscients que la fertilité passe avec le temps, mais ils n'ont pas les moyens de faire des enfants. Et on se retrouve avec ce taux de fécondité très bas.
En 2015, la population de l'Italie a diminué, moins 130 000 habitants. Ce jeudi reste une journée d'information sur l'infertilité, décrétée cause nationale.
Le temps de ce jeudi, des averses sont encore possibles sur des reliefs, quelques gouttes également sur le Finistère, les Côtes d'Armor et le Cotentin. Et puis partout ailleurs, la grisaille va laisser dans la journée place à un ciel largement ensoleillé. Les températures maximales de 20 à 24 degrés sur la moitié nord du pays, de 23 à 27 au sud.